Daniel lit Marie Voltorta, le livre sur la passion de Jésus. Page 245.
Non, c'est 244.
54.
Oui, oui, c'est pour ça que je regarde. Voilà, on va le lire. Hein. Judas
de Kériot.
De Kériot après sa trahison. Je vois Judas. Il est seul. Il est vêtu de jaune clair, avec un cordon rouge à la taille. Mon ammoniteur intérieur m'avertit que c'est depuis peu qu'a été capturé Jésus. Et que Judas, qui s'est enfui tout de suite après, est maintenant en proie à un contraste de pensée. En effet, l'Iscariote semble un fauve furieux, traqué par une meute de matin. Tout souffle de vent dans les feuillages, un bruit quelconque sur la route. L'écoulement d'une fontaine le font sursauter, et se retourner soupçonneux et effrayé comme s'il se sentait rejoint par un justicier. Il tourne la tête en la gardant basse, le cou tordu. Il tourne les yeux comme quelqu'un qui veut voir et a peur de voir. Si un jeu de lumière de la lune crée une ombre d'apparence humaine, il écartille les yeux, fait un saut en arrière, devient encore plus livide qu'il ne l'était, s'arrête un instant, puis s'enfuit précipitamment. En revenant sur ses pas, en se détournant par d'autres chemins jusqu'à ce qu'aucun bruit, un autre jeu de lumière le fait s'arrêter et s'enfuir dans une autre direction. Dans sa folle marche, il va ainsi vers l'intérieur de la ville, mais une clameur du peuple l'avertit qu'il est près de la maison de Caïphe. Et alors, en se portant les mains à la tête et en se penchant comme si ses cris étaient autant de pierres qui le lapident, il s'enfuit. Et dans sa fuite, il prend une ruelle qui l'amène tout droit vers la maison où a été consommée la scène. Il s'en aperçoit quand il est en face, à cause d'une fontaine qui coule à cet endroit de chemin, les pleurs de l'eau qui tombent goutte à goutte dans un petit bassin de pierre et un faible sifflement de vent qui s'insinue sur le chemin étroit en produisant une lamentation étouffée, doivent lui sembler les pleurs de celui qui l'a trahi et la plainte du supplicié. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre et s'échappe, les yeux fermés pour ne pas voir cette porte par laquelle peu d'heures avant il est passé avec le maître et par laquelle il est sorti pour aller prendre les hommes armés pour se saisir de lui. Dans cette course aveugle, il va heurter un chien errant. Le premier chien que je vois depuis que j'ai des visions, un gros chien gris, et hirsute qui s'écarte en grognant, prêt à s'élancer contre celui qui l'a dérangé. Judas ouvre les yeux et rencontre les pupilles phosphorescentes qui le fixent. Il voit la blancheur des crocs découvertes qui semble produire un rire diabolique. Il pousse un cri de frayeur. Le chien, qui peut-être le prend pour un cri menaçant, se jette sur lui et les deux roulent dans la poussière. Judas dessous paralysé par la peur, le chien dessus. Quand la bête lâche sa croix, considérée peut-être comme indigne de la lutte, Judas saigne à cause de 2 et 3 morsures et son manteau a de larges déchirures. Il a été vraiment mordu à la joue, au point précis où il a baisé Jésus. La joue saigne et le sang souille au cou le vêtement jaune de Judas. Le sang lui fait une sorte de collier en inhibant le cordon rouge qui serre le vêtement au cou. Et il le rend plus rouge encore. Judas met la main à sa joue. Il regarde le chien qui s'éloigne, mais le guette dans l'ouverture d'une porte. Il murmure Belzébuth. Et poussant un nouveau cri, il s'enfuit, poursuivi par le chien. Pendant quelque temps, il fuit jusqu'au pont, qui est près de Gethsémani. Là, soit fatigué de le suivre, soit que l'eau l'éloigne, parce qu'il est hydrophobe, le chien abandonne sa proie et revient en arrière en grognant. Judas, qui s'était jeté dans le torrent pour prendre des pierres et les jeter au chien, le voyant s'éloigner, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'il a de l'eau jusqu'au mi-mollet. Sans s'occuper de son vêtement de plus en plus trempé, il se penche sur l'eau et boit comme s'il était brûlé par la fièvre, et il lave sa joue qui saigne et qui lui fait mal. À la clarté d'un premier éveil de l'aube, il remonte sur la berge, de l'autre côté, comme s'il avait encore peur du chien, et il n'osait pas revenir vers la ville. Il fait quelques mètres et se trouve à l'entrée du jardin des Oliviers. Il crie « Non, non !» en reconnaissant l'endroit. Mais ensuite, je ne sais pas par quelle force irrésistible ou par quel sadisme satanique et criminel, il avance en cet endroit. Il cherche l'endroit où il est arrivé, la capture, la terre du sentier, fouillée par de nombreux pieds, l'herbe piétinée, en un poids donné et du sang par terre, peut-être celui de Mahéchu. Il lui montre que c'est là qu'il a indiqué l'innocent au bourreau. Il regarde, puis, et il pousse un cri rauque et fait un saut en arrière. Il crie « ce sang !» et il le montre. À qui ? Avec son bras tendu et son index qu'il pointe dans la lumière croissante, son visage se montre terreux et spectral. Il semble fou. Il a les yeux écarquillés et brillants, comme s'il délirait. Ses cheveux ébouriffés par la course et la terreur semblent dressés sur sa tête. La joue qui enfle lui tord la bouche en un rictus. Son vêtement déchiré, couvert de sang, mouillé, boueux, car la poussière, en se mouillant, est devenue de la boue, le rend semblable à un mendiant. Son manteau si déchiré et boueux pend d'une épaule comme une guenille, et il s'y empêtre qu'en continuant à crier « ce sang !» Il recule comme si ce sang était devenu une mer qui monte et submerge. Judas tombe à la renverse et se blesse derrière la tête en heurtant une pierre. Il pousse un gémissement de douleur et de peur. « Qui est-ce » crie-t-il. Il doit avoir pensé que quelqu'un l'a fait tomber pour le frapper. Il se retourne avec terreur. Personne. Il se lève. Maintenant le sang dégoutte aussi sur la nuque. Le cercle rouge s'élargit sur le vêtement. Il ne tombe pas par terre, car il y en a peu. Le vêtement le boit. Maintenant, la corde paraît déjà au cou. Il marche. Il retrouve la trace du feu allumé par Pierre au pied d'un olivier, mais il ne sait pas que c'est Pierre qui l'a fait et croit que Jésus était là. Il crie « Allez, allez !» Avec les deux mains tendues en avant, il paraît repousser un fantôme qui le tourmente. Il s'échappe et va finir justement contre le rocher de l'agonie. Maintenant, l'aube est nette et permet de bien voir. Et tout de suite, Judas voit le manteau de Jésus laissé plier sur le rocher. Il le reconnaît, il veut le toucher. Il a peur, Il allonge la main et la retire. Il veut, il ne veut pas. Mais ce manteau le fascine. Il gémit. Non. Non. Puis il dit, oui. Par Satan, oui, je veux le toucher. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Et il dit, je n'ai pas peur. Mais la terreur lui fait claquer des dents. Et le bruit que fait au-dessus de sa tête une branche d'olivier remuée par le vent et qui heurte à son voisin le fait crier de nouveau. Pourtant, il fait un effort, saisit le manteau et il rit. Un rire de fou, de démon. Un rire hystérique, saccadé, lugubre, qui n'en finit pas. Il a vaincu sa peur et il le dit. Tu ne me fais pas peur, Chris. Plus peur. J'avais si grand peur de toi et je croyais Dieu est fort et maintenant tu ne me fais plus peur car tu n'es pas Dieu. Tu es un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison, mes peurs. Quel sot quand tu parlais. Même hier soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait un sens prophétique à tes paroles, tout ordinaires. Tu n'es rien. Tu te laissais vendre. Indiquer, prendre comme une souris dans son trou. Ta puissance, ton origine, ah ah ah, bouffon. Le fort, c'est Satan. Plus fort que toi, il t'a vaincu. Ah ah ah, le prophète, le Messie, le roi d'Israël, et tu m'as assujetti pendant 3 années avec la peur toujours au cœur. Et je devais mentir pour te tromper avec finesse quand je voulais jouir de la vie. Mais même si j'avais volé et forniqué sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait. Poltron, fou, lâche, tiens, 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 j'ai eu tort de ne pas te faire à toi ce que je fais à ton manteau pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur. Peur d'un lapin, tiens, tiens, tiens. À chaque tiens, il cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau. Il le chiffonne dans ses mains, mais en le faisant, il l'ouvre et apparaissent les taches qui l'humectent. La furie de Judas s'arrête. Il fixe ses taches, il les touche, il les flaire, c'est du sang. Il le déplie, elle est bien visible, l'empreinte laissée par les deux mains tachées de sang. Quand il appuie l'étoffe sur son visage, ah, du sang, le sien, non Judas, laisse tomber le manteau et regarde autour de lui, contre le rocher aussi, là où Jésus s'est appuyé le dos quand l'ange le réconfortait. Et il a une tache sombre de sang qui sèche, là, là, du sang, du sang. Il baisse les yeux pour ne pas voir, il voit l'herbe toute rougie par le sang qui est tombé sur elle. Celle-ci, à cause de la rosée qui l'a diluée, paraît tomber depuis peu. Il est rouge et brille au premier soleil. Non, 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 je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce sang. Au secours, il porte les mains à sa gorge et perd tout contrôle, comme s'il se noyait dans une mer de sang. Arrière, arrière. Laisse-moi, laisse-moi, maudit. Mais ce sang, c'est une mer. Il couvre la terre, la terre, la terre. Et sur la terre, il n'y a plus de place pour moi, car je ne puis voir ce sang qui la couvre. Je suis le Caïn de l'innocent. L'idée du suicide, je crois qu'elle est venue en ce moment, en ce cœur. Le visage de Judas fait peur. Il se jette du talus et s'enfuit par l'oliveraie, sans revenir par la route déjà faite. Il semble poursuivi par des fauves. Il revient dans la ville, il s'enveloppe comme il peut dans son manteau et cherche à couvrir sa blessure de son visage autant qu'il le peut. Il se dirige vers le temple. Mais pendant qu'il va dans cette direction, à un carrefour, il se trouve en face des canailles qui traînent Jésus chez Pilate. Il ne peut se retirer car une autre foule le pousse dans le dos. En accourant pour voir, et grand comme il est, il domine forcément, et il voit, et il rencontre le regard du Christ. Les deux regards s'enlancent un moment, puis le Christ passe, lié, frappé, et Judas tombe à la renverse. Comme s'il s'évanouissait, la foule le piétine sans pitié et il ne réagit pas. Il doit préférer être piétiné par tout un monde plutôt que de rencontrer ce regard. Quand la meute décide et passe par le martyr et le chemin est libre, il se relève et court au temple. Il bouscule et renverse presque un garde placé à la porte de l'enceinte. D'autres gardes arrivent pour interdire l'entrée aux forcenés. Mais lui, comme un taureau furieux, les écarte tous. L'un d'eux qui s'approche auprès de lui, pour l'empêcher de pénétrer dans la salle du Sanhédrin, où ils sont tous encore rassemblés pour discuter, est saisi à la gorge, étranglé et jeté, sinon mort, certainement moribond, en bas des trois marches. « Votre argent, maudit, je n'en veux pas !» crie-t-il, debout au milieu de la salle, à l'endroit où était avant Jésus, on dirait un démon qui débouche de l'enfer. Ensanglanté, dépeigné, enflammé par le délire, la bave à la bouche, les mains comme des griffes, il crie et semble aboyer, tant sa voix est perçante, rauque et hurlante. « Votre argent, maudit, je n'en veux pas, vous m'avez perdu, vous m'avez fait commettre le plus grand péché. » comme vous, je suis maudit, j'ai trahi le sang innocent, qu'il retombe sur vous, ce sang, et ma mort sur vous. Non, ah, Judas voit le pavé baigné de sang. Même ici, il y a du sang. Partout, partout, il y a son sang. Mais combien de sang a l'agneau de Dieu pour en couvrir ainsi la terre et ne pas en mourir? Et c'est moi qui l'ai répandu à votre instigation. Maudit, 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 pour l'éternité, malédiction à ces murs, malédiction à ce temple profané, malédiction au pontife des cides, malédiction aux prêtres indignes, aux faux docteurs, aux pharisiens hypocrites, aux juifs cruels, aux scribes sournois, malédiction à moi, malédiction à moi. Prenez votre argent et qu'il vous étrangle l'âme dans la gorge comme un moine la corde. Et il jette la bourse à la figure de Caïphe et s'en va en poussant un cri alors que les pièces résonnent en s'éparpillant sur le sol après avoir frappé en les faisant saigner la bouche de Caïphe. Voilà. Personne n'ose le retenir. Il sort, il court à travers les chemins et fatalement, il se trouve à rencontrer deux fois Jésus à l'aller et au retour de chez Hérode. Il abandonne le centre de la ville pour prendre au hasard des ruelles les plus misérables et finit de nouveau contre la maison du Cénacle. Elle est entièrement fermée, comme abandonnée. Il s'arrête, la regarde. « La mère, murmure-t-il, la mère !» Il resta décis. Moi aussi j'ai une mère, et j'ai tué un fils à une mère. Pourtant, je veux entrer, revoir cette pièce, là où il n'y a pas de sang. Il donne un coup à la porte, un autre. La maîtresse de maison vient ouvrir, et entrouvre la porte, une fente, et en voyant cet homme bouleversé, méconnaissable, elle jette un cri et essaye de refermer, mais Judas d'un coup d'épaule l'ouvre, toute grande, en renversant la femme effrayée, passe outre. Il court vers la petite porte qui donne sur le Cénacle. Il l'ouvre, il entre. Un beau soleil entre par les fenêtres, grandes ouvertes. Judas pousse un cri de soulagement. Il anticipe, tout est calme et silencieux. La vaisselle est encore comme on l'a laissée. On comprend que pour le moment, personne ne s'en est occupé. On pourrait croire qu'on va se mettre à table. Judas va vers la table. Il regarde s'il y a du vin dans l'amphore. Il y en a. Il boit avidement à l'amphore elle-même, qu'il soulève à deux mains. Puis il se laisse tomber, assis, et appuie sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il ne s'aperçoit pas qu'il est assis justement à la place de Jésus et qu'il a devant lui le calice qu'il a servi pour l'Eucharistie. Il s'arrête un moment jusqu'à ce que s'apaise l'essoufflement causé par sa longue course, puis il se lève, la tête et voit le calice et il reconnaît où il s'est assis. Il se lève comme possédé, mais le calice le fascine. Il y a encore au fond un peu de vin rouge et le soleil, en frappant le métal qui paraît de l'argent, fait briller ce liquide. Du sang, du sang, du sang ici aussi. Son sang, faites cela en mémoire de moi. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament qui sera versé pour vous. Ah, maudit que je suis. Pour moi, il ne peut plus être versé pour la rémission de mon péché. Je ne demande pas pardon, car lui, il ne peut me pardonner. Hors d'ici, il n'y a plus d'endroit où le cas de Dieu puisse connaître le repos. À mort, à mort. Il sort, il se trouve en face de Marie, debout à la porte de la pièce où Jésus l'a quittée. Elle entendait du bruit, s'est montrée, espérant peut-être voir Jean, qui est absent depuis tant d'heures. Elle est pâle, comme si elle avait perdu son sang. Elle a des yeux de la douleur qui rend encore plus semblable à ceux de son fils. Judas rencontre ce regard, qui le regarde avec la même connaissance affligée et conscient dont Jésus l'a regardé en route, et avec un haut effrayé, il s'adosse au mur. Judas, dit Marie, Judas, qu'es-tu venu faire? Les paroles mêmes de Jésus est dites avec un amour douloureux. Judas s'en souvient et pousse un cri. Judas, répète Marie, qu'as-tu fait? À tant d'amour tu as répandu en trahissant. La voix de Marie est une caresse tremblante. Judas va s'échapper. Marie l'appelle d'une voix qui aurait dû convertir un démon. Judas, Judas, arrête-toi, arrête-toi, écoute, je te le dis en son nom. Repens-toi, Judas, lui pardonne. Judas s'est enfui. La voix de Marie, son aspect, ont été le coup de grâce, ou plutôt de disgrâce, car il résiste. Il s'en va précipitamment. Il rencontre Jean, qui accourt vers la maison pour prendre Marie. La sentence est prononcée. Jésus va aller au calvaire. C'est le moment de conduire la mère à son fils. Jean reconnaît Judas, bien qu'il reste bien peu du beau Judas qu'il y a peu de temps. « Toi ici, lui dit Jean avec un dégoût visible, toi ici, malédiction à toi, meurtrier du Fils de Dieu. Le Maître est condamné. Réjouis-toi si tu le peux, mais dégage le chemin. Je vais prendre la mère. » Quelle ton autre victime ne te rencontre pas, reptile. Judas s'enfuit. Il s'est enveloppé la tête dans les lambeaux de son manteau, en laissant seulement une fente pour les yeux. Les gens, le peu de gens qui ne sont pas vers le prétoire, l'évitent comme s'ils voyaient un fou. Et il semble tel. Il erre à travers la campagne. Le vent apporte de temps à autre un écho, la clameur qui vient de la foule, qui suit Jésus en lui, adressant des imprécations. Chaque fois qu'un pareil écho arrive à Judas, il hurle comme un chacal. Je crois qu'il est réellement devenu fou, car il cogne la tête rythmiquement contre les murets de pierre, ou bien il est devenu hydrophobe, parce que quand il voit un liquide quelconque, eau ou autre, il hurle, il crie, du sang, du sang, du sang. Il voudrait boire au ruisseau et aux fontaines, et il ne le peut, car l'eau lui paraît du sang. Et il dit, c'est du sang, c'est du sang. Il me noie, il me brûle, j'ai le feu. Son sang qu'il m'a donné hier est devenu du feu en moi. Malédiction à moi et à toi. Il monte et descend les collines qui entourent Jérusalem, et son œil irrésistiblement va au Golgotha, et par deux fois il voit loin le cortège qui monte en serpentant En serpentant la côte, il regarde et pousse un cri. Le voilà au sommet, Judas. Aussi est au sommet à une petite colline couverte d'oliviers. Il y est pénétré en ouvrant une fermeture rustique, comme s'il en était le maître, ou pour le moins très habitué. J'ai l'impression que Judas ne se souciait pas beaucoup de la propriété d'autrui. Debout sous un olivier à l'extrémité d'un talus, il regarde vers le Golgotha, il voit se dresser les croix, et il comprend que Jésus est crucifié. Il ne peut voir ou entendre, mais le délire et le maléfice de Satan lui font voir et entendre comme s'il était au sommet du calvaire. Il regarde comme halluciné. Il se débat. Non, non, ne me regarde pas, ne me parle pas, je ne le supporte pas. Meurs, meurs, maudit, que la mort ferme ses yeux qui me font peur, cette bouche qui me maudit. Mais moi aussi je te maudis, puisque tu ne m'as pas sauvé. Son visage est tellement hagard qu'on ne peut le regarder. Deux filets de bave descendent de sa bouche hurlante. La joue mordue est livide et enflée, et fait paraître son visage déformé. Les cheveux collés, sa barbe très noire, qui a poussé sur ses joues à 6 heures. Net un bâillon lugubre sur ses joues et son menton. Les yeux ensuite, ils roulent, ils louchent, ils sont phosphorescents. Des yeux de démon. Il arrache de sa taille le cordon de grosse laine rouge qu'il a ceint de 3 tours. Il en éprouve la solidité et en la roulant autour d'un olivier et en tirant de toutes ses forces, il résiste, il est solide. Il choisit un olivier qui se prête à ce qu'il veut faire. Voilà, celui qui penche au-delà du talus avec sa chevelure en désordre va bien. Il monte sur l'arbre, il assure solidement un nœud coulant à une branche des plus robustes et qui pend vers le Golgotha, puis il enfile la tête dans ce nœud coulant. Maintenant, il paraît avoir 2 colliers rouges à la base du cou. Il s'assoit sur le talus, puis d'un coup se laisse glisser dans le vide. Le nœud le serre, il se débat quelques minutes, ses yeux chavirent, l'asphyxie le rend noir, il ouvre la bouche, les veines du cou se gonflent et deviennent noires. Il envoie 4 ou 5 coups de pied dans l'air, dans les dernières convulsions, puis la bouche s'ouvre et la langue pend, noire et baveuse. Les globes oculaires ouverts sortent de la tête, montrant le blanc de l'œil injecté de sang. L'iris disparaît vers le haut. Il est mort. Le vent fort qui s'est levé avant l'orage imminent balance le macabre pendu et le fait tourner comme une horrible araignée suspendue au fil de sa toile. La vision finit, et j'espère arriver à oublier bientôt tout ceci, car je vous assure que c'est une vision horrible. Si Judas s'était jeté au pied de la mère en disant « pitié », la mère de pitié l'aurait recueilli comme un blessé. Jésus dit « horrible ». Mais pas inutile. Trop de gens croient que Judas a commis une chose de peu d'importance. Certains arrivent même à dire qu'il a eu du mérite, car sans lui la rédemption ne serait pas venue, et par conséquent il est justifié devant Dieu. En vérité, je vous dis que si l'enfer n'avait pas déjà existé et existé parfait à ses tourments, il aurait été créé pour Judas, encore plus horrible et éternel, parce que tous les pécheurs et tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur, et pour lui, éternellement, il n'y aura plus d'adoucissement et de condamnation. Le remords aurait pu aussi le sauver, s'il avait fait s'il avait fait du remords, un repenti. Mais lui n'a pas voulu se repentir. Au premier crime de trahison, encore pardonnable, à cause de la grande miséricorde. Qu'est-ce que mon affectueuse faiblesse ! Il a joué les blasphèmes, à travers les souvenirs, à travers les terreurs, à travers son sang, et à travers mon manteau, à travers mon regard, à travers les traces de l'institution de l'Eucharistie, à travers les paroles de ma mère. Il a, comme il a voulu maudire, comme il a voulu se suicider, c'est la volonté qui compte dans les choses, dans le bien comme dans le mal. Quand quelqu'un tombe sans la volonté de tomber, je pardonne. Tu vois, Pierre, il m'a renié. Pourquoi ? Il ne savait même pas, lui, exactement. Un lâche, Pierre ? Non. Mon Pierre n'est pas un lâche. Contre la comte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malsu pour me défendre et risquer d'être tué de ce fait. Ensuite, il s'était enfui sans avoir la volonté de le faire. Ensuite, il avait renié sans avoir la volonté de le faire. Par la suite, il a bien su rester et avancer sur le chemin sanglant de la croix, sur mon chemin, jusqu'à arriver à la mort de la croix. Il a su par la suite donner de moi un excellent témoignage, au point d'être tué à cause de sa foi intrépide. Je le défends, mon Pierre. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment. Elle dormait, émoussée par le poids de son humanité. Quand elle s'éveilla, elle ne voulait pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai pardonné tout de suite. Judas n'a pas voulu. Tu dis qu'il paraissait fou et enragé. Il était d'une rage satanique, sa terreur à la vie du chien, animal rare, en particulier à Jérusalem, venait du fait qu'on l'attribuait à Satan, depuis un temps immémorial. Cette forme pour apparaître aux mortels dans les livres de magie, on dit encore qu'une des formes préférées de Satan pour apparaître est celle du chien, mystérieux ou d'un chat. Ou d'un bouc. Judas déjà est en proie à la terreur qui lui venait de son crime, convaincu qu'il appartenait à Satan à cause de ce crime, vit Satan en sa bête, en cette bête errante. Celui qui est coupable voit en tout des ombres de peur. C'est la conscience qui les crée. Ensuite, Satan existe, ces ombres qui pourraient encore donner le repentir à un cœur et en fait des larves horribles qui l'amènent au désespoir. Et le désespoir porte au dernier crime, au suicide. À quoi bon jeter le prix de la trahison quand ce débrouillement n'est le fruit que de la colère et n'est pas fortifié par une volonté droite de se repentir. Dans un cas, se dépouiller des fruits du mal devient méritoire, comme il l'a fait, non ? Sacrifice inutile. Ma mère, et c'était la grâce qui parlait et la trésorière qui donnait le pardon en mon nom, lui dit « Repens-toi, Judas. Il pardonne. Oh, si je lui aurais pardonné s'il s'était jeté aux pieds de la mère en disant « Pitié, elle est la mère de pitié. » L'aurait recueilli comme un blessé. Et sur ses blessures sataniques, par lesquels l'ennemi lui avait inoculé le crime, aurait répandu les larmes qui sauvent et ne l'aurait amené au pied de la croix en le tenant par la main pour que Satan ne pût le saisir et les disciples le frapper. Amené pour que mon sang tombât d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs, et elle aurait été, elle, la prêtresse admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, parce qu'elle est la mère des vierges et des saints, mais aussi la mère des pécheurs. Mais lui n'a pas voulu. Méditez le pouvoir de la volonté dont vous êtes les arbitres absolus. Par elle, vous pouvez avoir le ciel ou l'enfer. Méditez ce que veut dire persister dans la faute. Le crucifié, celui qui se tient les bras ouverts et attaché pour vous dire qu'il vous aime et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne veut pas vous frapper parce qu'il vous aime et préfère se refuser ce pouvoir de vous embrasser, unique douleur de son éclat de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir. Le crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent quitter la faute, devient pour les impénitents un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer et user de violence envers eux-mêmes, meurtriers de leur esprit et de leur corps à cause de leur persistance dans la faute, à la vue de celui qui est doux, qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver, prend l'apparence d'un spectre horrifiant. Marie, tu t'es lamentée de cette vision, mais c'est le vendredi de la Passion. Ma fille, tu dois souffrir aux souffrances que tu as dû endurer à cause de mes souffrances et de celles de Marie. Tu dois joindre tes souffrances à cause de l'amertume de voir les pécheurs rester pécheurs. Elle a été notre souffrance. Celle-là, elle doit être la tienne. Marie a souffert et souffre encore de cela, comme de mes tortures. Tu dois donc souffrir cela maintenant. Repose. Dans 3 heures, tu seras toute mienne. Et de Marie, je te bénis. Violette de ma passion, passiflore de Marie. Marie doit annuler Ève. Voilà.
Non.
On arrête là.
On va arrêter là. Hein? Merci Seigneur.
On a eu Judas là.